Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
De quoi je me mêle avec cette semaine, eh bien Raphaël Grably qui est là. Salut Raph.
Salut François.
Ravi de, de te retrouver.
Eh ben, ravi d'être là aussi.
Voilà, pour commenter l'actu tech, en plus avec cette effervescence.
Ah, on a un contexte qui est quand même assez sympa.
On crie un petit peu plus
que d'habitude. Oui, il faut s'entendre. Il y a Nico de l'autre côté que j'ai besoin du micro pour l'entendre.
Je ne vous entends pas.
Je ne vous entends pas. Salut Nico.
Salut François, salut.
Voilà, Nicolas Louche qui est journaliste à Numérama et puis Raphaël Grably qu'on retrouve sur la plateforme Tech & Co. Voilà, 52 minutes pour évidemment commenter l'actu tech. Il y a plein de choses à raconter parce que c'est notre deuxième jour, voire troisième pour certains de ce salon Vivatech que vous avez parcouru. Raphaël, bon, c'est pas ton premier salon, ça sera pas ton dernier.
J'espère.
Il y a quand même une petite ambiance quand même, je trouve, dans ce Vivatech avec évidemment Elon Musk, on va en parler tout à l'heure. Beaucoup de monde, peut-être plus de monde que les saisons précédentes. Je sais pas ce que t'en penses, Nicolas.
Oui, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de monde. Après, peut-être qu'on s'était habitué à une sorte de standard Covid ces dernières années, avec des salons désertés, ouais. Avec des salons avec des quotas. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait la moindre règle sanitaire en application. Donc oui, il y a beaucoup de monde. J'ai croisé des étudiants, donc je pense que c'est plus porte ouverte que les professionnels, ce qu'on a l'habitude de voir sur les salons. Et c'est vrai que c'est assez plaisant parce que du coup, on a des allées remplies, à peu près tous les stands, y compris des stands qui sont pas forcément les plus intéressants, des plus grandes marques. Il y a du monde autour qui s'intéresse, qui pose des questions. Donc du point de vue de l'ambiance, je trouve que c'est plutôt réussi comme salon, cette édition 2023 de Vivatech.
Alors Nico, des petits coups de cœur forcément. Tu as vu des choses alors plus ou moins sympas.
Ouais.
Y a quand même le projet de Franky Zapata. Je ne sais pas si vous avez vu ça quand même. C'est ce petit œuf volant sans permis. C'est quand même très sexy.
C'est sympa. Alors, j'aurais bien aimé le voir décoller, vraiment.
C'est souvent le truc avec les démonstrations de taxis volants, de drones géants. On aimerait bien les voir voler, mais je pense que ça pose quelques problèmes de sécurité, donc on les voit pas trop voler.
Et sur la porte de Versailles, à côté du ministère de la Défense, bon.
Ouais, un peu mal.
Alors, est-ce que vous avez... Ceci dit, au CES, ça arrive aussi, hein. C'est pas spécialement à...
Vous avez vu un peu le concept de ce produit, hein, qui est donc une espèce de petite capsule avec des hélices, et donc, il n'y a pas de, on n'a pas besoin d'avoir de brevet de pilote pour piloter ce truc-là. Et en fait, l'idée, c'est aux États-Unis de déployer ce type d'engin comme dans un parc d'attractions.
Exactement.
C'est-à-dire que tu aurais 10-15 minutes de formation. C'est très simple. Il y a plein d'IA. Donc, en fait, tu pilotes, mais sans vraiment piloter. C'est-à-dire que tu fais presque un tour. Tu peux peut-être te balader, mais tu ne dois pas pouvoir jauger l'altitude, etc.
Oui, oui.
etc. Et c'est un peu comme tu loues un scooter des mers. Ben là, tu louerais cette petite capsule volante pour faire un petit tour. Ça pourrait être sympa. Voilà. Bon.
Non, je trouve ça marrant comme Raphaël. J'ai envie de le voir à l'usage. J'ai envie d'essayer. Mais oui, c'est rigolo de voir comment on essaye de réinventer justement à l'heure de ces nouvelles technologies les transports, que ce soit pour des courtes distances, des plus longues, avec des taxis, la livraison. On le voit beaucoup à Vivatech. Vous l'avez sans doute vu vous aussi. Il y a des petits stands qui passent il y a des petits robots qui passent autour des stands pour te livrer des colis qui sont censés te montrer l'avenir de la livraison pour emmener un colis d'un magasin à un particulier. Enfin, c'est toujours des expérimentations qui, à mon avis, sont loin d'être prêtes, mais qui sont toujours assez amusantes parce qu'elles sont toutes concentrées au même endroit dans les salons technologiques. Donc c'est plaisant de pouvoir voir ça en vrai.
Mais c'est vrai que parfois on est un peu déçu par tout ça, hein, Raph, parce qu'on voit ça nous depuis des années. On voit pas forcément des progrès, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on nous vante ces systèmes de livraison. Ça a du mal à arriver et souvent on revoit les mêmes innovations d'une année sur l'autre.
Oui, alors déjà pour revenir sur Vivatech, je pense qu'il faut pas s'attendre à un CES français ni à un salon type Mobile World Congress, qui sont des salons qui sont un peu, entre guillemets, du futur, de la science-fiction, où on voit vraiment, j'ai envie de dire, du matériel, du matos avec lequel on va s'amuser. C'est un salon qui est différent. C'est un salon de rencontre, essentiellement.
Oui, de networking, en fait.
De networking,
hein.
Où on voit quand même des choses. Alors, je suis d'accord, c'est moins sexy, c'est vrai. Par contre, quand on va sur le stand de la Poste, voir des robots qui vont livrer ou des robots qui vont travailler dans des entrepôts de tri du courrier, quelque part, c'est aussi un peu plus concret. C'est aussi la tech qui est derrière le rideau, la tech du back-office. Alors, et je trouve que quand on prend le temps de s'y intéresser, C'est pas mal aussi. Alors, c'est très différent, effectivement. On va pas avoir de la télé incroyable.
Ce n'est pas des choses qu'on va acheter. Ouais.
Ou des choses qu'on va acheter. Mais l'idée de voir aussi.
Tu pourrais t'acheter un robot de livraison. Hein.
Pourquoi pas.
Mais pour passer d'une pièce à une autre.
Oui, c'est vrai.
Ça. Mais pour les bières ou les trucs bières, comme ça. Ouais.
C'est clair. Alors, ceci dit, je ne sais pas si tu as vu, il y a un chien robot qui est un peu la version chinoise du Boston Dynamics.
Oui.
qui est assez intéressante et qui est vendu. Il y a deux formats. Il y a un gros qui est assez impressionnant d'ailleurs, qui est là pour une exploitation industrielle. Il y a un petit qui est vendu comme compagnon robot et qui est là pour porter ta bouteille d'eau quand tu vas aller courir, par exemple, des choses comme ça. Donc, il y a aussi, on va dire, du pur loisir.
Ce robot chinois a été quand même légèrement copié sur celui de Boston. Hein.
Oui, c'est vrai.
Il ressemble énormément quand même.
Oui, hein. Il était aussi télécommandé avec une télécommande. Après, on nous explique qu'il y a une version autonome qui existe. Donc, voilà. Et puis, il est déjà sur le marché. Hein. On peut l'acheter déjà en ligne. 2 700 $, ce qui n'est pas si cher que ça.
Ouais.
Donc après, effectivement, faut voir ce que ça donne à l'usage. Mais enfin, c'est relativement concret. Et donc oui, c'est la tech de rencontre. C'est des échanges. D'ailleurs, la force de VivaTech, effectivement, c'est pas les nouveautés. La force de VivaTech, c'est les speakers, c'est les guest stars. Hier, on a vu Yann Lequin
qui était là.
Ouais. Bon, évidemment, il y avait Emmanuel Macron. Demain, on va en parler. Il y a accessoirement Elon Musk, quand même. Très joli coup de VivaTech.
Superstar de la tech, voilà. Superstar tout court même. Hein.
Voilà, très joli coup quand même. Donc c'est un salon de personnalités, de rencontres avec des gens qui vont aussi s'intéresser, qui vont nous parler de techno qu'on ne voit pas. Mais d'ailleurs, on parle d'intelligence artificielle. Enfin, c'est vrai que c'est difficile de montrer l'intelligence artificielle. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les gens qui la font et de parler avec eux.
Et je pense que si tu as un stand où tu n'as pas d'intelligence artificielle... Ouais. C'est un loser cette année.
On voit qu'il y a des restes, de l'année dernière. Il y a des restes du métavers.
Ouais, il y a encore pas beaucoup. Moi, j'allais te dire que je trouve que c'est un peu le truc marrant avec ces buzzwords, comme on dit à chaque fois. C'est que là, il y a IA sur tous les stands. Parfois, on pose la question, pourquoi vous avez de l'IA en fait sur votre produit? Ils disent, parce qu'il a appris à partir de plein de données.
Oui.
Ah, ok, d'accord. Donc, c'est de l'IA,
Il y a beaucoup de fausses IA.
Le métavers, moi, je trouve qu'il a disparu. Ça y est.
Oui, en fait, à mon avis, il reste ceux qui ont réservé leur stand avant l'explosion de l'IA.
Oui, peut-être.
Mais après, moi, par contre, je pense que l'IA, c'est différent. Je ne pense pas que l'IA disparaîtra comme ça. L'effet buzzword disparaîtra. On est sur un pic, on en parle beaucoup.
Oui, bien sûr.
En revanche,
on en parle beaucoup avec ChatGPT qui a marqué les esprits.
Il y a des vrais usages avec Microsoft, avec Google, sur Excel, sur des choses du quotidien. C'est pas forcément sexy, mais c'est concret.
L'IA, c'est
et le métavers l'année dernière, on en parlait, on savait que c'était bullshit. On le disait que c'était bullshit. L'IA, c'est un buzzword, mais je pense que ce n'est pas du tout bullshit.
Et je trouve d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de passer sur le stand de Google, qu'ils résument très bien toute cette frénésie autour de l'IA. Et ils le font assez intelligemment. Il y a une fresque qui raconte en fait toutes les avancées en IA de Google sur ces 20 dernières années. Et pour moi, c'est le parfait message. Parce que non, l'IA, ce n'est pas quelque chose qui est apparu cette année ou l'année dernière. C'est quelque chose qui est là depuis toujours. C'est pour ça que quand vous prenez en photo quelque chose avec votre téléphone, eh ben, il va améliorer l'image, il va reconnaître quelqu'un, etc. Sauf que maintenant, on en parle comme si c'est nouveau, comme si l'IA venait d'apparaître. Non, il y a juste des nouvelles formes d'IA qui viennent d'apparaître, les IA génératrices, ChatGPT, que ce soit Midjourney sur l'image, etc. Mais c'est très bien au final d'avoir des rappels à l'ordre et l'IA est beaucoup plus concret, beaucoup plus terre à terre.
Après cette prise de conscience, c'est vrai qu'il y avait cette IA silencieuse qui existe depuis des années et des années, d'ailleurs.
Google parle de Google Maps.
Google Maps, c'est bien sûr.
Et donc cette IA silencieuse qu'on utilisait sans trop savoir ce que c'était, etc. Mais d'un côté, ChatGPT nous a fait ouvrir les yeux.
Oui, sur ce qu'il y avait derrière.
On va dire, le progrès technologique.
Absolument, oui.
La capacité de cette intelligence artificielle à apprendre de plus en plus vite, à restituer des informations, parfois même à sucrer des tâches humaines. On le voit, il y a plein de choses qui disparaissent. Enfin bon, on ne va pas refaire l'histoire. Mais bon, tout ça, c'est intéressant. Nico, toi, qu'est-ce que tu as vu? Parce que j'imagine que pour Numérama, tu as fait ton petit marché.
Absolument.
Forcément.
On va faire plein de petites vidéos sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, et donc je fais le tour un petit peu. Moi, mon but, c'est pas d'aller voir les grosses marques. Voilà, on les voit à tous les gros salons, on suit leur actu régulièrement. On essaye de voir des petits projets un peu amusants. Il faut reconnaître que c'est ce qui nous intéresse souvent sur Numérama. Et moi, mon coup de cœur pour l'instant, il me reste encore un jour à VivaTech, donc peut-être que je changerai d'avis d'ici là. C'est une boîte française qui s'appelle Capsix Robotics, j'espère que je l'ai bien dit. Et elle propose un robot qui s'appelle IU. Et il y a des images qui vont passer dans quelques instants, normalement à l'écran, puisque Jean-David m'a suivi quand je suis allé essayer ce robot. Et c'est un robot masseur.
Ah.
Et tout le concept de Capsix Robotics, c'est de se dire qu'il y a de plus en plus de besoins de massage, mais pas forcément assez de masseurs. Et par exemple, si vous faites du sport en club, au gymnase, la piscine, c'est rare que la piscine municipale elle ait un masseur qui soit disponible en permanence. Donc l'idée, c'est qu'on pourrait avoir des machines comme ça disponibles dans des salles avec un écran où on configure soi-même son profil et on s'allonge et on a un robot qui va nous masser, qui va passer sous les omoplates, qui va mettre de la pression sur les muscles. Il va y avoir des images quand je me fais masser.
Là, qu'est-ce qu'il lui met ? Il lui met une chaussette là ?
Ouais, je lui mets une sorte de chaussette pour me protéger, pour que ce soit pas sale. Normalement, elle est pas obligatoire quand on est torse nu, je crois.
Ah oui, sauf tu
que...
choisis, t'as vu le...
Je choisis plein de choses, je dis mon état de santé. Après, il y a un écran en fait sous la table de massage qui permet de régler l'intensité, de voir où on en est. Il y a une sorte d'ambiance sonore. Moi, j'ai choisi la mer au hasard, comme ça, c'était un petit peu relaxant. Et c'est très rigolo. Voilà, c'est pas les meilleures images de ma vie.
Vous êtes, si vous êtes en audio, vous ratez un grand moment.
On rate quand même.
Déjà, les chaussettes bleues de Nico sont sympas. Mais
on peut pas dire que je fais pas des efforts pour Numérama et pour la tech.
Non, mais ça c'est vrai.
Je m'investis.
Ah, vraiment, mais, vraiment.
Mais en tout cas, c'est
marrant. Tu mouilles le maillot, comme on dit.
Je mouille le maillot, c'est le cas de le dire, ouais.
Et t'avais pas peur que la machine en fait se rebelle ?
Eh ben j'avais très peur. Parce que déjà, la première chose à prendre en compte, c'est qu'un robot masseur en temps normal, un masseur en temps normal, il a des doigts.
Oui.
Et l'action même du massage, elle implique le fait que les doigts fassent pression sur le dos, qu'on sente justement différents niveaux d'intensité. Et là, non. On est juste globalement sur un gros disque qui nous appuie sur le dos. Et au début, il y allait légèrement. Et petit à petit, il a commencé à y aller plus fort. Et surtout à des zones sensibles, que ce soit le cou, que ce soit les omoplates. Et j'avais un petit peu peur. Je me disais, non, mais là, si je suis bloqué, comment je peux... Je calculais un petit peu mes chances de m'enfuir. Je disais, est-ce que je peux réussir là, avec un coup en me relevant?
Comment je vais m'échapper du robot? On a l'impression d'être dans un mauvais film de science-fiction.
Ah non, mais il met de la force, ce truc. Mais en tout cas, c'est marrant. C'est déjà vendu à des spas, à des centres de sport. C'est uniquement pour les professionnels aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a un intérêt là-dedans. C'est assez rigolo et c'est français en plus. Donc, ça me fait plaisir de parler de Capsix Robotics.
C'est sûr que c'est rigolo, mais est-ce que demain, ça ne va pas remplacer des fonctions de masseur, si tu veux? Parce que finalement, tu te dis, ok, je m'achète ça, j'adore les massages, etc. Ça va progresser en plus. Il va avoir un progrès technologique qui fera que demain...
Ça va sans doute progresser. Eux disent, évidemment, on a dit qu'il y avait l'IA partout, ils mettent l'IA partout, ils disent qu'ils ont entraîné le robot à partir de plein de massages existants, de modèles existants, grâce à l'intelligence artificielle, et ils scannent aussi le dos avant le début pour s'adapter à mon dos et savoir où taper. Donc, il y a quand même une part de technologie et c'est censé s'améliorer. Après, je pense, et eux-mêmes le disent, que... ils imaginent le vendre à des hôtels de luxe où il y a des massages généralement, mais ils pensent que ça sera pas accompagné. Enfin, ça sera des massages accompagnés d'êtres humains. C'est-à-dire que le robot sera là en plus de l'être humain pour avoir une sorte de troisième bras qui va pouvoir appuyer sur le dos. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant. Je pense pas que ce soit vraiment quelque chose. Enfin, personnellement, je vais de temps en temps chez l'ostéopathe. Je continuerai d'aller chez l'ostéopathe. Je préfère mille fois un contact humain et quelqu'un qui va pas me briser le dos et ne pas s'en rendre compte. Donc, je pense pas que ça soit pour le remplacer, mais ça peut créer des usages intéressants. Et pourquoi pas un jour avec des massages à la maison avec des bras robotiques.
Bon, en tout cas, c'est une boîte française, visiblement.
Une boîte française,
c'est chouette.
Et le bras robot est fabriqué en Allemagne.
Bon, bah, très bien.
Ah, mais pour un usage précis, ça peut être intéressant. Je ne pense pas que ça remplace le masseur ou la masseuse. Mmh. Mais par exemple, si on fait du sport, qu'il faut se faire masser tous les jours, une cuisse,
un geste répétitif.
Un geste précis, ça peut être assez performant, je pense.
Bon, très bien. Tu n'as pas l'air chaud bouillant pour tester quand
si,
même.
Alors, franchement, si.
Ça donne envie de tester
totalement. Ah, si, si.
Bah, bon, faut prendre rendez-vous.
Ah, ouais.
T'as vu quoi d'autre ?
J'ai vu, alors je suis passé aussi chez L'Oréal, que j'avais déjà eu la chance de voir au CES de Las Vegas en janvier, qui cette année a un immense stand. Bon, ils ont souvent un immense stand, hein, si vous savez à qui appartient L'Oréal et qui organise Vivatech, c'est facile de deviner pourquoi.
Bien sûr.
Mais leur stand, en fait, est un mélange de deux choses intéressantes d'un point de vue technologique. On a à la fois les solutions pour les particuliers. Il y a par exemple un site web qui permet de se prendre en photo trois selfies de soi et qui permet en fait d'analyser ses boutons, d'analyser les points noirs et d'avoir des conseils en fait en produits qui pourraient permettre de régler ça. C'est la vision de L'Oréal est de dire que il y a 10% des gens qui vont chez le dermato et donc tout le reste finalement il n'a pas de conseils dermatologiques. Je trouve ça marrant et en même temps c'est aussi un sacré appât pour eux pour vendre les produits. Évidemment, hein, on va pas vous conseiller des produits de marques concurrentes, c'est les produits uniquement L'Oréal, La Roche-Posay.
On va pas te vendre du Yves Rocher, quoi.
Non, on va pas y avoir du Yves Rocher. On va clairement nous inciter dans le parcours d'achat à aller sur des produits comme ça. Et après, il y a plein de produits qui sont à destination des professionnels, notamment des coiffeurs, qui sont super intéressants. On a vu une sorte de robinet qui est capable d'économiser l'eau, qui est déjà disponible dans des milliers de salons de coiffure. Et j'ai noté un chiffre qui est assez fou. D'ici 2025, ça sera dans je ne sais plus combien de milliers de salons de coiffure. C'est déjà dans plusieurs milliers aujourd'hui. Mais en 2025, ils vont économiser 2,5 milliards de litres d'eau par an. Rien qu'avec ça. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que quand on va chez le coiffeur, eh ben, l'eau, elle est allumée pendant 5 minutes de shampoing sans jamais s'arrêter. Ça consomme comme pas possible. Et ils sont vraiment en train de s'intéresser à cette technologie-là et de trouver des solutions. Toujours évidemment avec pour but de vendre leurs produits. J'ai aussi vu un produit qu'on avait vu en janvier à Las Vegas, qui est une sorte d'imprimante pour cils, pour sourcils. L'intérêt, il a à la fois pour l'accessibilité, pour les personnes qui auraient été malades, qui normalement se font tatouer justement des sourcils, bah là, elles peuvent le faire elles-mêmes. Elles peuvent changer de style tous les jours, elles s'impriment avec la machine sur le visage et c'est réglé. L'intérêt aussi, ça va être d'un point de vue mode. On a la même chose pour la peau, pour la coiffure. C'est plutôt qu'avoir des médecins qui simplement vous disent, bah, je pense qu'au vu de votre cheveu, il faudrait que vous mettiez tel shampoing. Et bah là, le coiffeur, il pourrait juste vous passer une machine qui va prendre des photos microscopiques des cheveux pour connaître la densité, pour connaître le type de cheveux qu'on a et pour surgérer des produits qui sont adaptés à ça. Et je trouve que c'est assez rigolo en fait de voir ce mélange. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup à titre personnel, la tech, la santé tech, je ne sais pas comment on pourrait dire, la health tech, je crois que c'est le terme en anglais, que ce soit avec les montres connectées, que ce soit avec ces capteurs miniaturisés. Et je trouve que voir des produits de cosmétiques utiliser la technologie pour vendre leurs produits, la beauty tech exactement, c'est intéressant. Et le stand de L'Oréal est suffisamment bien fait pour donner envie de s'intéresser.
Voilà, L'Oréal, bien sûr, on voit que c'est des business incroyables. Il y a même des appareils qui font des crèmes personnalisées.
Absolument.
Vous ajoutez divers ingrédients et vous appuyez sur un bouton et pas vous vous retrouvez avec du rouge à lèvres, des crèmes et tout. C'est impressionnant hein, quand même.
Oui, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, ce que tu expliques, ça illustre bien aussi une petite surprise qui était un peu déjà le cas l'année dernière. C'est que les stands qui sont le plus plein de monde, où il y a le plus de monde en permanence, c'est les stands aussi de la tech autour de la beauté, L'Oréal. Juste derrière nous, il y a le stand d'LVMH. Alors évidemment, LVMH est partenaire de Vivatech. Ils investissent beaucoup dans Vivatech. Mais enfin, ils ont, il faut quand même le dire, le plus gros stand. Et le stand est plein 24 heures sur 24. Toute la journée, le stand est totalement plein pour y accéder. C'est extrêmement compliqué. Et donc, il y a aussi... alors, les innovations, il y en a des dizaines selon les marques. Alors, c'est la tech aussi dans le luxe. Mais par exemple, pour l'interface de sites de vente en ligne de certaines marques, on a vu sur l'horlogerie avec des NFT. Et en fait, en discutant avec les gens de chez LVMH, on se rend compte que c'est pas du tout accessoire, que ça représente un business extrêmement important, que si nous, parfois, ça peut nous paraître assez loin, les montres avec des NFT, etc., en fait, elles partent très, très vite. Par exemple, en Chine, par exemple, vous avez des clientèles de jeunes entrepreneurs, entrepreneuses qui ont fait fortune, par exemple, dans la crypto et qui vont acheter ces trucs-là. Et donc, il y a un vrai marché. Et je suis assez surpris de voir à quel point des stands comme ça, boîtes qui ne sont pas forcément tech à première vue, comme LVMH, comme L'Oréal, sont blindés, alors que des stands comme Amazon, Meta ou Google, je dis pas qu'il y a personne, il y a du monde.
Il y a enfin, monde.
Ouais, mais c'est pas pareil.
On peut circuler.
Ça intrigue moins, on se demande moins pourquoi ils sont là.
Exactement.
Pourquoi ils sont là.
Bien sûr. Mais tiens, vous parlez de LVMH. J'ai pu m'entretenir avec le directeur de l'innovation de LVMH, qui est un gars passionnant, et qui m'expliquait qu'ils avaient passé un accord avec Apple pour le tap-to-pay.
Ouais.
Il se trouve que pour fluidifier l'expérience client, enfin, je vous ai déjà rentré dans un magasin Louis Vuitton, vous faites la queue pendant je sais pas combien de temps pour rentrer, enfin pour acheter, c'est pas au niveau du luxe.
Surtout pour regarder, pas vraiment pour acheter.
Et pour tous ceux qui achètent, et les étrangers, etc. Et ils vont intégrer quelque chose qui n'est pas encore arrivé en France, c'est le tap-to-pay, c'est-à-dire que les iPhones des collaborateurs pourront recevoir l'argent. Et alors, il n'y a même plus tu vois, tu lances ton Apple Pay, tu tapes le téléphone qui est à côté, paf, c'est payé automatiquement. Et alors, ça va tuer, évidemment, le marché des terminaux de cartes bancaires qui se retrouvent d'un coup, mais relégués
Ce qui est important, c'est d'une part...
C'est terrible.
Il va se passer quelque chose là-dessus.
Ce qui est important, c'est d'une part que ce ne soit pas que chez Apple, que ça arrive aussi sur les Android.
Ça marche aussi entre un iPhone et un Android.
Il y a des applications, mais on sait très bien que le paiement mobile, comme c'est morcelé le marché de l'Android, c'est plus compliqué. Apple Pay, c'est les seuls, ils sont très forts là-dessus. Moi, j'aimerais que le paiement mobile se développe aussi sur Android pour que tout le monde puisse en profiter. Et enfin, la moitié des gens, je crois, en France, ou les deux tiers quasiment, puissent en profiter. Et puis, évidemment, que ça reste pas chez les magasins de luxe, parce que je pense que ça peut être très utile dans beaucoup, beaucoup d'autres boutiques. Je pense par exemple, enfin même des supermarchés, si on a besoin de prendre juste un paquet de pâtes et qu'il y a la queue à la caisse, qu'il y ait quelqu'un qu'on puisse croiser et faire un tap-to-pay ou qu'il y ait des petites bornes accessoires.
Oui.
Ça, ça pourrait être vraiment intéressant. Ouais. En fait, la fonction, je la trouve passionnante. Maintenant, effectivement, l'étape qui va être la plus longue et la plus difficile, c'est la démocratisation parce qu'il va falloir que les banques s'entendent entre elles. Évidemment, il va y avoir un lobbying extrêmement important des fournisseurs des terminaux, on s'en doute bien. Donc, mais on voit, voilà, comme souvent, ça arrive soit par le côté geek, soit par le côté luxe.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Apple est en train aussi de casser ce business du terminal de paiement.
Ils s'en prennent
avec un téléphone, quoi.
Il y a des boîtes comme Square, qui a été fondée par Jack Dorsey, qui ont fait tout leur modèle économique là-dessus. On voit souvent dans les nouveaux restaurants qui viennent d'ouvrir des iPads avec une sorte de lecteur NFC derrière. Si demain Apple lance un iPad avec de la NFC intégrée, Square est mort, en fait. C'est-à-dire que Apple va lancer sa formule, les commerçants paieront directement Apple, ils lui donneront une commission et en échange, Apple s'occupera des paiements. Donc ça peut avoir un gros impact sur le marché des paiements. Il y a toujours une limite quand même, c'est que du sans contact aujourd'hui, donc je pense que la plupart des commerces français vont continuer de prendre des vrais TPE avec le lecteur de cartes, avec la puce, avec toutes les technologies qui encadrent les cartes, mais dans 5-10 ans, c'est pas impossible que le sans contact soit partout.
On a un biais geek qui est hyper important, mais en fait moi ça fait 2-3 ans que je ne paye quasiment plus autre banque en mobile. Hein.
Non.
Je sors souvent sans mes cartes, que ce soit.
Mais c'est dingue, ça a été. Moi perso, la
bascule, ça représente peu de monde.
Très vite.
Pareil, dès le début.
Parce que ça faisait longtemps que j'avais mes CB sur l'iPhone, je m'en servais assez peu. Et d'un coup, je sais pas, il y a eu comme un déclic qui s'est fait. Maintenant, 90% de mes dépenses, je l'ai fait avec.
Moi, je suis arrivé à un point où, par exemple, je sais pas, ma carte de compte commun. Je me souviens plus du code. Enfin, il y a eu un moment où
ça m'arrivait une fois, moi.
Plus du code. Mais sauf qu'en fait, on est minoritaire. On est très minoritaire.
Non, non,
la plupart des gens, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont. Je pense que parmi ceux et celles qui nous écoutent, eux aussi sont plutôt utilisent.
Parce qu'ils sont sensibilisés à ça.
Mais il y a tellement de monde. Il suffit de regarder autour de soi.
Oui.
Il y a des gens déjà qui n'ont pas confiance. Ils se disent non, moi, je veux taper mon code.
Il y a des gens qui ont encore des billets, Raphaël.
Il y a des gens et beaucoup de gens qui ont beaucoup d'espèces.
Donc,
on parle d'une évolution qui va être très 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 lente.
Ah oui. Bon, après, la monnaie sonnante et trébuchante a son charme aussi.
Moi, je suis pas fan, mais je comprends très bien que ce soit important pour des gens.
Et il faudrait qu'Apple accepte l'échec et tout le monde serait d'accord et on réglerait le problème.
Alors, juste un mot parce que pour terminer, pour clore ce sujet VivaTech, on ne peut pas passer à côté de Monsieur Elon Musk qui sera là vendredi. En fait, à part, je vous rappelle qu'on enregistre cette émission jeudi, hein, donc. De quoi je me mêle est disponible le vendredi aux alentours des midi. Elon Musk sera sur scène à 16h ce vendredi.
Sauf s'il annule.
Sauf s'il annule.
Il peut ne pas se réveiller. Bah, attendez, on ne sait jamais avec lui. Hein. Il y a plusieurs fois, il a dit qu'il allait à des événements, il n'est pas venu aux événements. Je pense qu'il y viendra parce qu'il a l'air d'être engagé, mais on ne sait jamais.
Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez, ça? Joli coup qu'Elon Musk soit là. Est-ce que ça a un intérêt on va dire autre que le show? Est-ce qu'il va annoncer des trucs sympas à votre avis?
Qui fait le gentil, qui fait le méchant, Raphaël?
Je vais faire le gentil.
Vas-y, fais le gentil et je fais le méchant après.
Enfin, gentil sans être. Enfin, le plus factuel possible. Bon, il vient, enfin, Elon Musk, déjà, moi je pense qu'il va venir à l'heure, bien coiffé, rasé et qu'il va être très sage. Pourquoi? Parce qu'il parle aux annonceurs ici. On est à VivaTech, l'organisateur c'est Publicis. Je pense qu'il vient chercher parler à Publicis avant VivaTech et donc je pense qu'il parle à des annonceurs et donc je pense qu'il va avoir un discours très différent de ce qu'il peut balancer sur Twitter. Je te laisserai raconter ça à Nico.
Plaisir.
Et moi je pense qu'Elon Musk va faire le show demain mais va pas partir en vrille. Il va être extrêmement sage, extrêmement calme. Et je pense qu'il ne va rien annoncer du tout.
Ah, ça, c'est important.
Mais je pense que c'est surtout un très, très, très joli coup de VivaTech. On disait c'est un salon de rencontre. De faire venir Musk, c'est un très beau coup. Mais je pense que voilà, Musk va venir sur scène. Il va parler de ce qu'il fait. Mais...
Parce qu'il y a quand même aussi tout un... Enfin, il y a des enjeux industriels, on le sait. Il était l'invité de Choose France avec Emmanuel Macron.
Oui, mais
Macron.
Alors là, c'était sa casquette de Tesla.
Excuse-moi, attends, je termine.
Ouais.
Il a dit... J'envisage des investissements significatifs en France. Est-ce que ça pourrait pas être le bon moment, là, à VivaTech, avec tous les acteurs de la tech qui sont présents, Macron qui est venu hier, enfin, etc.
Et Macron,
dire, bah, écoutez, voilà, je vais investir tant de milliards pour tel truc ou tel truc, etc.
Alors, ouvrir,
là,
ouvrir une seconde Gigafactory en Europe et dire que c'est en France demain, ce serait un coup incroyable.
Ça serait incroyable.
Moi, j'y crois pas. Je pense que c'est trop tôt.
Moi, j'y crois pas. Mais peut-être autre chose. Peut-être un centre de recherche sur l'IA.
Peut-être.
Enfin, un truc, quoi.
Peut-être, mais il peut y avoir des choses. Je rejoins Raphaël sur.
Vu sa fortune, il peut ouvrir un centre de l'IA.
Il peut ouvrir ce qu'il veut, ça l'occupe. Il n'y a pas de souci pour ça. Je suis pas inquiet pour lui. Je rejoins Raph sur tout ce qu'il dit. Je pense en effet que c'est un très bon coup pour Vivatech. Elon Musk, lui aussi, va forcément trouver quelque chose à y gagner. Il viendrait pas sinon par gentillesse envers ses amis du groupe. Par contre, moi, le truc qui me dérange dans tout ça, et vous le savez, on en a un peu discuté avant l'émission, c'est que toute la promotion de Vivatech a été faite autour de la venue d'Elon Musk. Il y a des publicités sur les sites qui nous disent Elon Musk à Vivatech, vendredi à 15h en direct. Il y a eu des communiqués de presse.
Mais c'est récent, ça.
Tout le monde en parle.
Ça n'a pas été annoncé, ça a été ajouté il y a quelques jours.
Parce que ça a dû être décidé au dernier moment.
Ça, bien sûr.
Oui, bien
sinon,
sûr.
Il l'aurait dit plus tôt.
Mais ça te choque, ça. Moi, ça me choque pas. Parce que...
Je vais te dire pourquoi ça me choque. Je comprends complètement l'intérêt économique pour Vivatech d'utiliser Elon Musk pour faire venir du monde. Mais la réalité, c'est qu'il y a un décalage qui est en train de s'installer entre la personnalité publique qu'est Elon Musk et ses entreprises qui me met extrêmement mal à l'aise, particulièrement en tant que journaliste tech qui couvre Tesla, SpaceX et Twitter. C'est qu'on a trois des entreprises les plus fascinantes du monde et on a une personne qui a passé toute cette semaine-là, et c'est vrai, aller voir ses tweets, aller voir ses réponses, à s'en prendre à Joe Biden parce qu'il faisait des plans pour protéger les enfants qui se revendiquent LGBT, qui font des plans pour protéger les personnes homosexuelles en disant que lui, c'était pas normal, qu'il fallait pas laisser les gens choisir leur orientation sexuelle avant tel âge, que Joe Biden était un criminel, que c'était pas bien, que il balance aussi plein de désinformations sur ce qui se passe autour de Donald Trump. C'est pas la première fois, il répond à des mouvements anti-trans en étant pro.
Je comprends ce que tu veux dire, mais en fait il y a deux facettes de Elon Musk. Il y a l'entrepreneur génial.
Oui, mais
c'est indiscutable.
C'est le même débat que est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. C'est la même chose. Et la réalité, c'est que je comprends qu'Elon Musk soit emblématique d'un point de vue économique aujourd'hui, mais y compris dans le monde politique, ces questions se posent. Est-ce que c'est normal de dérouler le tapis rouge à Elon Musk, à Choose France, de le recevoir à la Commission européenne comme une idole, comme un génie de tout ce qu'il est réellement en tant que chef d'entreprise, et en même temps, de voir se battre contre
des
lui.
Des réflexions plus que douteuses sur certains sujets.
Et même sur la politique, il fait des remarques sur l'Europe, il quitte les engagements européens sur les réseaux sociaux,
sur Twitter,
pourtant, deux jours après, on le reçoit en héros, en mode, oui, on adore Elon Musk, il est génial, parce qu'on a envie d'avoir son argent. Et je comprends, je pense que Vivatech a aussi envie d'avoir l'argent d'Elon Musk, a aussi envie d'avoir la réputation d'Elon Musk, mais il est peut-être temps que les médias se posent la question de comment on doit couvrir la personne qui l'est devenue, parce que malheureusement, Tesla, SpaceX, Twitter, ça ne reflète pas ce qu'est Elon Musk et ce qu'il montre.
T'es un peu d'accord valeurs. Tu trouves que c'est comme une rockstar un peu gênante
honnêtement,
que tu reçois dans un concert parce que malgré tout, elle est bankable?
Non, je suis pas d'accord avec ça parce que déjà, Elon Musk, tu dis il faut séparer l'homme de l'artiste. Tu fais référence à des cas où il y a des faits répréhensibles par la loi. Elon Musk n'a jamais rien fait d'illégal. Il a des avis qu'on partage ou pas. Et pourtant, il y a pas mal de gens qui me disent fréquemment que je suis un gros anti-Musk, etc. Je partage pas ses avis. Maintenant, est-ce que je sais ce que pense Yann LeCun de tel sujet? Est-ce que je sais ce que pense Tim Cook de tel sujet?
Oui, mais ils le disent pas, c'est la différence.
Oui, non, mais je suis d'accord.
En fait, quand t'invites Elon Musk, tu invites à la fois le patron de Tesla et à la fois le porte-parole de ces causes-là.
Mais
je
ne parle
pas.
Il a le droit.
Non, je suis pas sûr qu'on ait le droit de pouvoir avoir des propos qui sont considérés homophobes.
Mais ce qu'il dit n'est pas illégal. Moi, je suis très.
Il joue sur la liberté d'expression américaine, mais là, il est invité en France. En France, on n'a pas le droit de dire.
Mais si en France, il tient des propos homophobe ou raciste, eh bien on sera le premier à le dire. Mais moi, je pense qu'il faut y arrêter de couvrir.
Je pense qu'il n'y a pas de limite. Et c'est ça qui m'inquiète. Je ne te dis pas qu'à l'instant T, il est condamnable, mais je pense qu'il n'a plus aucune limite et qu'à lui dérouler le tapis rouge en permanence, on prend le risque en fait, d'installer le fait que tout ça,
c'est la
réalité, c'est que Twitter, c'est
ce qui va être intéressant de voir, c'est comment va être menée cette entrevue.
Et ça va être très, très consensuel.
Et ça va être très, vous avez créé.
C'est hyper consensuel.
Donc c'est Maurice Lévy qui est le patron de Publicis.
Oui, ça va être très consensuel.
Qui va avoir un entretien avec Elon Musk.
Oui, c'est
un peu comme un TEDx en quelque sorte. Voilà.
Oui, bien sûr.
Ça va être un truc à la cool. Est-ce qu'on peut s'attendre à. Parce qu'il y a un autre sujet. Tu le disais, tu l'as effleuré, c'est Twitter. Twitter qui, s'il continue comme ça, est interdit le 27 août.
Absolument. Mais c'est aussi le sujet.
Il n'y a plus de modération.
Enfin, il y a plus de choses. Mais est-ce qu'on va mettre
le doigt sur ce qui fait mal? Est-ce qu'on va lui poser la question, qu'est-ce que tu vas faire le 27 août ?
J'en sais pas, j'en sais rien, moi, je suis pas...
C'est une bonne question, non, parce que, on dit qu'il est parole à loi, la réalité, c'est qu'il a quand même annoncé des choses qui vont aller à contre-courant avec...
Oui, mais à l'heure actuelle, il ne l'est pas.
Il ne faut pas qu'on le traite trop comme un enfant gâté, quoi, c'est ça le problème.
C'est ça qui me dérange.
On va arriver, évidemment.
J'ai énormément d'admiration pour ces entreprises, j'ai toujours de l'admiration pour lui aussi, à plein de niveaux, mais j'aime pas, en fait, ce côté Elon Musk, dès qu'en fait, il peut servir les intérêts économiques ou... ici pour plutôt marketing de quelqu'un ou de quelque chose, et on ferme les yeux sur tout ce qu'il a dit et il est de nouveau le roi et il peut faire tout ce qu'il veut. Moi, ça me met vraiment mal à l'aise et je pense vraiment que tous les médias, y compris Numérama, ont fait beaucoup trop de promotion finalement indirectement à ses entreprises et à tout ce qu'il fait et à tous ses propos, alors que la réalité c'est que si quelqu'un de moins riche, quelqu'un de moins puissant disait la même chose, et plus personne voudrait parler de lui. Enfin, il y a plein de choses qu'il fait qui sont comparables à des gens qui ont été cancelled entre guillemets aux États-Unis. Donc pourquoi Elon Musk lui est imperméable à toutes les polémiques, je comprends pas.
Moi, l'idée d'être boycotté quand on n'a rien fait d'illégal, je ne l'accepte pas. Voilà. C'est un truc que je ne comprends pas. Et moi, en tant que journaliste tech, je suis désolé. Quand on parle d'Elon Musk, quand on parle de Tesla, quand on parle de Twitter et quand on parle de SpaceX, mon boulot, c'est de le couvrir et c'est d'en parler.
Bien sûr. Oui, tu veux dire par là que
tu couvres les entreprises.
Tu découvres elle, sa vie publique d'entrepreneur et ses propos.
C'est pas à moi.
Gênant, parce que c'est des propos gênants.
On s'est mal compris si tu penses que je dis qu'il ne faut plus couvrir Tesla. Je dis qu'il ne faut plus relayer tous les propos d'Elon Musk.
Je ne relaie pas les propos d'Elon Musk.
Je n'ai pas visé ton travail.
Et on ne va pas les relayer. Et
certains
ont le droit de les relayer s'ils veulent les relayer. Mais après, non. Ce que tu dis, moi je suis d'accord avec ce que tu dis dans un contexte. Un seul, c'est celui du chef d'entreprise de Twitter. C'est celui du chef d'entreprise du premier réseau d'information, notamment pour les journalistes.
Il est même plus CEO en plus.
Voilà, mais enfin, quand ce chef d'entreprise-là participe à de la désinformation, là c'est un sujet journalistique. C'est on se dit que le patron de la plateforme la plus influente au monde dans l'information est lui-même un type qui diffuse des fake news. Ça c'est problématique.
Oui, mais on va.
Ce qu'il fait quand même régulièrement.
Oui, mais oui. Totalement. Mais oui. Il faut en parler. Et ça, il faut en parler. Par contre, dire qu'on n'est pas d'accord avec ses prises de position sur tel ou tel sujet, je suis désolé. Si demain il est à Vivatech et qu'il fait une sortie homophobe, alors là il y aura un sujet. Là il y aura un vrai sujet. S'il dit qu'il aime pas, qu'il n'est pas pour tel ou tel discours, je suis désolé. Moi, je suis peut-être pas d'accord avec ça, mais
il faut qu'il le fasse à Vivatech pour que ce soit un sujet. Enfin, ce qu'il fait sur Twitter, c'est pas considéré comme un sujet aujourd'hui.
Mais je ne sais pas, moi, il n'a pas été attaqué.
Je suis d'accord. Et moi, ce qui me dérange, c'est pas ses opinions politiques. Il a le droit de penser ce qu'il veut et je suis d'accord avec lui sur certains sujets. Hein. C'est comme tout. Mais il y a des choses qui dépassent vraiment les limites, qui offensent vraiment des gens.
La loi, Nico.
Alors, on pourrait. On a bien compris ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est comment va être traitée cette entrevue. Et est-ce qu'on ira un peu loin quand même ? Est-ce qu'on va le traiter comme un enfant gâté pendant 30 minutes en lui disant c'est génial, etc. Ou est-ce qu'on va quand même appuyer sur certains sujets ?
On n'est pas obligé d'aller dans ces deux sens qui sont, moi, je trouve un peu caricaturaux. Je pense qu'on peut aller dans un sens qui est très simple, c'est de parler de ce qu'il fait, de ses entreprises, de Tesla. Est-ce que Tesla va demain créer une Gigafactory en France, ce qui serait quand même une nouvelle absolument incroyable,
c'est incroyable
pour
évidemment.
La France. Est-ce que demain SpaceX va travailler avec les Européens? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et j'espère que ce seront les questions.
J'espère qu'on aura ces questions-là.
Et je pense qu'on les aura.
On est d'accord pour dire que c'est un immense coup pour Vivatech et la preuve.
Bien sûr. Bon, écoutez, on débriefera ça peut-être la semaine prochaine, mais peut-être qu'on n'en parlera même pas parce que ça n'aura...
Peut-être que ça aurait été très consensuel, et peut-être qu'on aura une super surprise.
Et peut-être, espérons-le.